Excusez. Je vais quand même brièvement me présenter. Donc, je m'appelle Joseph Toulan, je suis vice-président de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de Saint-Vincent. Je suis marié, j'ai deux enfants. Je fais partie de la minorité catholique de la CFTC. J'ai pas à savoir si les adhérents sont catholiques, pas catholiques, pratiquants, pas pratiquants. Ça correspond aussi à l'ensemble de la société. Donc, il ne faut pas croire que la CFTC, avec son 7 chrétiens, est un syndicat de catholiques, de chrétiens, etc. Mais par contre, notre raison d'exister en tant qu'organisation syndicale qui fait en gros 10% du paysage, c'est le dernier C, c'est-à-dire article 20 de nos statuts, c'est la référence à la morale sociale chrétienne. Donc, la doctrine sociale de l'Église nous porte. A été rédigé, c'était la morale sociale chrétienne. Je suis le dernier d'une famille de 7 enfants. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans et demi comme manœuvre chez un horticulteur. Pas du tout parce que ma famille n'avait pas les moyens de me nourrir et de me payer des études, mais uniquement parce que dès que j'ai pu sortir du système scolaire, je suis sorti avec un ravissement et une joie. Je me suis ennuyé pendant toute la scolarité, là ça fait drôle d'être là dans une salle de classe à la fin. Donc j'ai travaillé assez tôt par choix, parce que je suis d'un milieu où je vois fils de médecin, petit-fils de médecin, etc. Ce qui est ni bien ni mal, personne n'est responsable de son milieu. Voilà, c'est un fait, ça a des avantages et des inconvénients. D'ailleurs, ça a plus d'avantages que d'inconvénients. En tout cas, pour tout ce qui est matériel, mais j'ai la chance d'avoir eu des parents assez exceptionnels. Je ne les ai jamais entendus s'engueuler. Ça devait arriver, mais... Ou alors les 7 enfants faisaient trop de bruit, on n'entendait pas. C'est aussi possible. Et un père qui a été absolument exceptionnel, et toujours un engagement social. Il a été médecin des prisons, cabinet libéral, mais en même temps médecin des prisons par choix. C'est quelqu'un qui est la génération peut-être de vos grands-parents, parce qu'il était né en 1902. Il est passé de la case médecin des prisons de Fresnes à interné à Fresnes pendant la guerre. Il s'en est sorti, il a retrouvé son poste à la Libération. Et il a été viré par l'administration parce qu'il s'est opposé à la façon dont on traitait les prisonniers et les libérations. C'est une grande. Je crois que c'est une grande leçon. Parce qu'il considérait que des gens avec qui il était en totale opposition, puisque lui avait été arrêté par la Gestapo et emprisonné, mais que tout être humain, toute personne qui a de la dignité, on doit respecter cette dignité en tant que médecin. Il s'est par exemple opposé à ce que des condamnés à mort qui étaient dans un état physique lamentable, puisque quasiment mourant, et qu'on allait fusiller le lendemain ou 48 heures après, passent leurs dernières 48 heures avec des chaînes aux pieds et aux mains, alors que de toute façon, vu leur état, il n'était pas question qu'ils puissent s'échapper ou quoi que ce soit. Donc j'ai été nourri par cette fibre, mais la maison était toujours ouverte. De toute façon, quand il y a 7 enfants, c'est forcément toujours ouvert. Hein. On peut fermer une porte, ça revient par une fenêtre. Et il y a toujours du monde qui passe, etc. Voilà, donc ça veut dire beaucoup de chance. J'ai fait du scoutisme, sous différentes étiquettes. On a tiré l'expérience que c'est pas l'étiquette Scout de France, Scout d'Europe, ou ce que vous voulez qui compte. C'est la maîtrise, l'encadrement des chefs, qui fait souvent la bonne troupe. Après mon service militaire, j'ai cherché du boulot et à l'époque, on avait beaucoup de chance, il faisait ouvrir le Parisien et vous trouviez du boulot. Vous pouvez refaire l'opération aujourd'hui et vous ne trouverez pas de boulot. Et donc là, j'ai été agent de nettoyage, c'était très intéressant pendant mes près de 2 ans. Donc je lavais les vestiaires, je vidais les poubelles, je nettoyais les toilettes dans différentes entreprises. Ce qui est très intéressant, c'est le regard des autres. Différents regards, il y a celui d'abord qui ne vous voit pas. Vous n'existez pas, vous n'êtes même pas obligé, on ne vous voit pas. Vous avez la personne qui va avoir un regard totalement méprisant pour celui ou celle qui va nettoyer le toilette. Vous avez la personne qui a une attitude tout à fait normale. Et puis vous avez aussi celui qui côtoie la classe ouvrière, c'est quand même extraordinaire, donc il vous piquerait votre seau et votre balai pour faire le boulot à votre place, et c'est pas bon. Et je vous dis ça parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les entreprises, ces différents regards étaient partagés, non pas en fonction de la hiérarchie dans l'entreprise, mais en fonction des hommes et des femmes. C'est-à-dire que le regard méprisant pouvait venir de quelqu'un qui était à un poste très subalterne, comme du directeur général, mais le regard bienveillant et normal pouvait venir aussi du directeur général, ce qui est pour moi aussi une bonne leçon que c'est ce que nous sommes, la façon dont nous regardons notre situation, et non pas la position sociale ou la position hiérarchique qu'on peut avoir. Et puis après, je suis rentré par hasard à la bourse, comme Rouillot. On me demandait deux qualités, le sens de l'orientation et un peu d'honnêteté, parce que je circulais autour du palais Brongniart avec une petite sacoche dans laquelle il pouvait y avoir des titres pour des sommes astronomiques, voire à l'époque, on pouvait se balader avec des lingots d'or, des pièces d'or, etc. Donc il ne fallait pas se perdre, pas partir avec. Comme j'ai eu les deux compétences, et j'ai un peu évolué dans mon système, puisque ça a cessé depuis 2 ans, mais pendant 10 ans, j'ai siégé à la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers. Pourquoi 10 ans? Parce qu'on ne peut pas faire au-delà de 2 mandats de 5 ans. Si ça ne vous parle pas, en France, vous avez 12 juges en matière de délits boursiers. J'ai été pendant 10 ans à les 12. Ça me donne une petite vision un peu du monde du travail. C'est un peu complet. Alors, comment je suis arrivé au syndicalisme? Quand je faisais du nettoyage, il y avait une société qui s'appelait Le Gabat, qui était en banlieue parisienne. Et il y avait un directeur des moyens généraux, un homme qui, 56 ans, 57 ans, qui avait commencé à 16 ans, et puis il avait grimpé dans l'hiérarchie, et était devenu directeur des moyens généraux. C'était un homme charmant. Moi, je ne suis pas un bricoleur, c'était une usine qui évoluait, qui fabriquait du matériel informatique, mais encore quelques ateliers avec des vieilles machines qui font beaucoup de bruit, qui puent l'huile chaude, etc. Il m'a montré comment on pouvait aimer ces machines, parce qu'il aimait. Il aimait son entreprise, il aimait ce qu'il faisait. D'autant plus que lui, il n'avait jamais eu d'enfant, et donc le travail était devenu quelque chose de très très prégnant. On se voyait en gros 2-3 fois par semaine, puis pendant 15 jours, 3 semaines, je ne l'ai pas vu. Je vais partir en congé, j'ai demandé de ses nouvelles, il m'a dit mais tu sais pas, pourquoi? Mais il est mort. Bon, un accident, donc il est arrivé. Un accident, c'est un accident social. Le Gabax a été racheté par une entreprise plus grosse qui s'appelle Olivetti. Ils ont racheté, ils ont restructuré, ils ont diminué les effectifs, mais ils ont respecté parfaitement la loi. Cet homme a reçu un jour une lettre recommandée avec une réception chez lui pour lui dire qu'à partir de telle date, il ne ferait plus partie des effectifs et qu'il toucherait une indemnité, etc. Ça l'a tué. Alors qu'il aurait suffi simplement d'abord de lui dire qu'on le remerciait pour tous les services qu'il avait rendus à l'entreprise, qu'il y avait une restructuration, que son poste faisait double. Et que si lui s'en allait, c'était pas un drame non plus, il ferait le joint avec la retraite, et ça permettrait à quelqu'un de plus jeune d'avoir un boulot. Il aurait compris, accepté. C'est vrai, c'est un peu difficile, mais bien là, le respect strict de la loi en toute inhumanité l'a tué. Je me suis dit, il y a quelque chose dans le système quand même qui ne fonctionne pas. Puis après, je suis arrivé à la bourse, mon agent de change, il y avait un système qui s'appelait gratification. Et c'était pas ce qu'on appelle la participation aujourd'hui, c'était bien meilleur, c'est-à-dire qu'on avait, tous les salariés avaient un intéressement direct sur le bénéfice de l'entreprise. Et comme on pouvait calculer tous les jours ce que l'entreprise gagnait en bourse, on connaissait les charges, à la fin de l'année, vous arrivez en gros à tirer les bénéfices, vous connaissez les charges, le chiffre d'affaires, etc. Et on s'est dit quand même, il manque quelque chose. Comment aller vérifier? Il faut aller avoir accès au compte. Pour avoir accès au compte, on a quelque chose qui est très bien fait, qui s'appelle les comités d'entreprise. Et avec un comité d'entreprise, vous pouvez aller auditer les comptes. Donc, j'ai décidé de monter le comité d'entreprise. Pour ça, j'avais besoin de l'aide d'un syndicat. Je suis allé voir, j'ai adhéré, j'ai été nommé délégué syndical et on a monté l'élection. Le jour où j'ai été désigné délégué syndical, le lendemain, j'avais plus de bureau, plus de téléphone, j'avais plus rien. C'était un peu la guerre, alors j'avais quand même un peu de formation, comme je l'ai dit, j'ai travaillé à 16 ans et demi, mais après, en cours du soir, j'ai repris quelques études, et j'avais quelques connaissances juridiques, donc j'ai dit à ma chef du personnel, qui était en même temps chef comptable, je charge l'agent de change, j'avais 120 personnes, donc elle faisait les deux, J'ai dit que c'était, à mon sens, une erreur, que je m'en allais et quand je reviendrais le lendemain, où j'avais de nouveau mon bureau, mon téléphone, mon poste de travail, où elle irait s'expliquer devant le juge, et pas n'importe quel juge, parce que c'est un délit pénal. Donc ça l'a fait un peu réfléchir. Le lendemain, j'avais mon poste, mon téléphone, tout ce que vous voulez. Et ça a été une excellente campagne électorale, puisque il y a eu les élections, il y a eu une autre liste qui avait été montée par cette direction, et nous avons fait 72%, non pas des votants, mais des inscrits. Donc merci chef. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'emballage syndical. Alors pour la petite histoire, je comprends qu'elle était... Elle ne voulait pas trop qu'on ait les dans les comptes, puisque elle a fait du temps, parce que c'est un peu complexe quand même, mais elle a réussi à voir qu'elle détournait de l'argent. Donc je suis allé voir les actionnaires en disant, mais petite syndicaliste, vous le croyez ou pas, mais vérifiez les comptes, moi je vous dis qu'elle vous pique là, 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 là. Et fin de la chef du personnel, et fin de cette direction. Remplacée par une autre direction, avec laquelle ça s'est tout à fait bien passé, tout à fait normalement passé, puisque... C'est mon ancien président, on se voit au moins deux fois par an pour un déjeuner, où on refait le monde. Et ça, c'est aussi très éclairant, parce que le départ a été très rugueux, très difficile, c'était un conflit. Voilà. Et ensuite, ça s'est passé tout à fait bien. Quand je dis tout à fait bien, quand on négociait les salaires, mon boulot, c'était d'essayer d'obtenir plus, et de l'autre côté de la table, vous êtes bien gentil, mais on a quand même des équilibres financiers à respecter, et le réflexe normalement du bon syndicaliste, il dit ben, je veux bien vous croire, mais il faut que vous me le démontriez, et puis on va en discuter. Et ensuite, voilà, j'ai continué, et aujourd'hui je suis même vice-président de la CFTC. Alors, pourquoi la CFTC? Il faut que je fasse un petit coup d'histoire sociale qui est très peu ou très mal ou pas du tout enseigné en France ou totalement déformé. Si vous allez sur Google, par exemple, et vous regardez avancée sociale ou loi sociale, vous constaterez que la France est un pays très récent, puisque nous sommes nés en 1789, et avant, il ne s'est jamais rien passé, il n'y avait personne. Ce qui est totalement faux. Notamment en matière sociale. En matière sociale, on peut retrouver un des premiers textes qui met des règles sociales. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs ces règles n'existaient pas avant, c'est la première fois qu'elles ont été mises par écrit, c'est à la demande de Saint-Louis, qui a fait répertorier les différents métiers, notamment à Paris, et les règles de ces métiers, notamment les règles sociales. Et vous trouvez qu'effectivement, il y avait un certain nombre de règles. À Paris, par exemple, les maçons, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les couvreurs avaient un salaire minimum différent par métier. Il y avait des caisses de solidarité via le compagnonnage, via les corporations, où celui qui tombait du toit et qui se tuait avait sa veuve, ses enfants qui étaient pris en charge par ces caisses. S'il ne pouvait plus travailler, il y avait aussi... cette prise en charge. Tout ça, évidemment, était totalement imparfait. Enfin, si quelqu'un peut me citer une réalisation humaine parfaite, je serais intéressé. C'était imparfait, mais ça existait. Révolution française, et là, les idées d'un ultralibéral. J'ai ultralibéral parce qu'on retrouve les mêmes idées aujourd'hui, défendues avec les mêmes arguments. Un penseur, avec sans doute la tête bien faite, Jean-Jacques Rousseau, vous savez, celui, vous, père de famille, de lui voir qu'il avait fait un traité sur l'éducation, qu'il a abandonné tous ses enfants. Donc un cas même de très cohérent. Il a fait aussi la théorie du libre contrat. C'est très intéressant, la théorie du libre contrat. C'est-à-dire que chacun est libre. Et puisque chacun est libre de contracter avec l'autre ou pas. Jusqu'ici, je suis. Et puisque chacun est libre, on n'a pas besoin de corps intermédiaires, on n'a pas besoin de règles, on n'a pas besoin de lois. Chacun est libre de faire sa loi. Un brave bourgeois, avocat de son état, le citoyen Le Chapelier, a voté une loi qui s'appelle la loi Le Chapelier, qui a dit, ben, on supprime tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez vous réunir à plusieurs pour faire valoir vos intérêts, c'est un délit. Ça s'appelle le délit de coalition. Donc, dans un premier temps, c'était les guillotines, et puis après, ils se sont modérés, c'était plus que la tôle. Les choses évoluent pas mal. Conséquence. Chacun est libre. Oui, mais entre celui qui peut donner du travail et celui qui a absolument besoin de travailler pour vivre, voire survivre et nourrir les siens, on voit très bien que celui qui peut donner du travail, celui qui est obligé d'accepter pour se nourrir, celui qui peut donner du travail peut tout imposer à l'autre. C'est exactement ce qui est arrivé. C'est pour ça qu'on a eu ce grand malheur au 19e siècle quand on vous dit les gamins dans les mines, c'est pas qu'une image, c'est une réalité. Une pauvreté absolument abominable, mais c'était le libre contrat. Il a fallu attendre 1884 avec la loi Valdez-Rousseau pour que de nouveau on puisse se réunir, le syndicalisme soit autorisé, les corporations, les corps intermédiaires autorisés. Alors, le délit de coalition, c'est Napoléon III qui a mis fin, donc c'était plus un délit, il y avait des petites tolérances, mais il a fallu attendre la Troisième République pour que tout soit réinscrit dans les textes. Et d'ailleurs, ça a été réinscrit de façon très intéressante, puisque la Troisième République a voté l'autorisation de créer des syndicats, mais leur a interdit d'avoir la personnalité morale. Il y a une grande figure, à peu près ignorée, parce qu'elle ne va pas dans le sens du grand dominant, qui était un grand député social chrétien, qui lui s'est levé, notamment à l'Assemblée nationale, et a dit, oui, il faut des corporations, ou il faut des syndicats, il faut qu'ils puissent avoir des biens, c'est-à-dire avoir des locaux, pouvoir recevoir des dons. Ça, ça a été refusé. Il a fallu encore attendre quelques décennies avant que ça soit accepté. Alors, cet homme, c'est Albert Demain. Albert Demain, je pense que tous ceux qui s'intéressent au social devraient tous les matins se lever et s'incliner devant Albert Demain. Mais il est quasiment inconnu parce que c'était un catho. Ça, c'est très mal. Et quand vous regardez les cours de l'histoire sociale, notamment en fac, vous trouvez beaucoup de gens et vous ne trouvez pas les cathos de service. Alors, ils n'ont pas fait grand-chose, d'accord. Alors là, j'ai une petite liste de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que quelqu'un comme Albert Lemain et puis d'autres, mais lui principalement comme il était législateur, ils se sont quand même battus pour avoir. Et ils ont obtenu, pas tout de suite, chaque fois il a fallu 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans avant qu'il le tienne. L'interdiction du travail des enfants, quand même une petite avancée sociale. L'interdiction du travail de nuit, parce que le travail de nuit d'ailleurs était interdit à une époque. L'ouvrage dont je vous parlais, qui a été rédigé sous Saint-Louis, il précisait que le travail de nuit était interdit. Et il disait pourquoi ? Pour deux raisons. Pour ne pas épuiser ceux qui travaillaient, leur accorder un repos normal, et pour que le travail soit bien fait. Ça s'adressait surtout aux artisans. Il y avait la sagesse de dire, oui, dans l'obscurité, vous travaillez moins bien que dans la lumière. Et dans le même texte, le travail le dimanche était interdit. Interdit avec des dérogations. Dérogations pour pouvoir se nourrir. Dérogations pour les jours de fête, pour qu'il y ait un peu d'activité festive. C'est un bon sens qu'on a connu jusqu'il y a quelques années. Et aussi pour les jours de fête, par exemple, les bijoutiers avaient le droit d'ouvrir pour vendre leurs bijoux, c'était la fête. Mais l'intégralité de leurs bénéfices, s'ils ouvraient le dimanche, allait dans une caisse commune pour les plus pauvres. Je ne suis pas sûr que socialement on ait progressé sur ce point. Et donc je reviens à mon 19e siècle un peu abominable, mes lois sociales avec des origines chrétiennes, donc interdiction du travail des enfants, interdiction du travail de nuit, sauf évidemment les métiers qui doivent travailler la nuit, mais notamment pour les femmes, pour protéger les femmes qui avaient charge d'enfants. Congé maternité, qui n'existait pas, avant couche, après couche, etc. Mise en place, demande de mise en place de caisses pour la retraite, de caisses pour la maladie. Je crois qu'on peut être assez fier de toutes ces grandes avancées. Alors d'autres aussi les ont réclamées, mais les premiers, Albert Demain et d'autres, notamment des patrons socio-chrétiens. L'histoire des allocations familiales est très révélatrice. Les questions familiales, elles sont des commandes par des patrons socio-chrétiens, notamment en Bretagne, en Savoie et dans l'Est, dans le Nord, qui se sont dit, mais si je donne le même salaire à mon salarié, mon ouvrier, qui est tout seul célibataire, qu'à celui qui a 3, 4, 5 enfants, il y a un problème pour celui qui a charge de famille. Alors je leur donne plus. Ceux qui ont charge de famille, ils ont le salaire de base et puis je leur donne en fonction du nombre d'enfants. Et très vite, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'entre le patron social qui faisait cela et celui qui avait l'usine à côté ou qui ne faisait pas, il y en avait un qui avait des coûts plus élevés que l'autre. C'est pour ça qu'on a fait rentrer dans la législation pour que le jeu ne se fasse pas sur le moins-disant social ou à l'avantage du moins-disant social. C'est pour ça qu'on a des allocations familiales,
dans la loi. Et aujourd'hui, quand j'entends tous les discours qui disent « Laissons les entreprises faire leur propre loi sur le principe de liberté », je m'inquiète sur l'état de la concurrence. Qu'on laisse dans les entreprises une certaine flexibilité cadrée, ça peut se concevoir, tout dépend du cadrage. Mais, allez, je vous prends l'exemple précis. Imaginez Bernard Tapie à la manœuvre, alors qu'on lui a dit si les gens sont d'accord, vous pouvez faire varier le code du travail comme vous voulez. Alors, il l'a fait un peu. Hein. Quand il a racheté Testu, Bernard Tapie, il y avait plusieurs repreneurs possibles. Et il a été rencontré, les syndicats, les salariés, il leur a dit voilà, si vous soutenez comme repreneur, alors je vous garantis une chose, les gars, l'essentiel, vous gardez votre boulot. Alors évidemment, tous, ils ont soutenu Bernard Tapie comme repreneur. Les pouvoirs publics, non, on ne va pas se mettre des grèves sur le dos. Monsieur Tapie, alors après, ils étaient tous dehors. C'est pour ça que j'aime bien quelquefois que les textes encadrent. Plutôt que de laisser les plus beaux parleurs emporter et construire la concurrence déloyale dont on a énormément souffert. Alors la CFTC, je vous l'ai dit, elle a l'article 1 qui précise que on s'inspire de la fête sociale de l'Église. C'est un syndicat laïc. Depuis sa création en tant que confédération en 1919, alors au départ il y a eu des syndicats cathos, chrétiens, etc., d'autres sans étiquette spéciale, et en 1919 ils se sont réunis, et au premier congrès, il y a eu le débat, est-ce qu'on est un syndicat de l'Église ou pas, et comme il y avait, comme il y a toujours, beaucoup de, notamment de protestants de l'Est de la France, les protestants ont dit ben, « nous on veut bien être dans un syndicat avec les cathos, avec d'autres, mais on ne va pas être dans un syndicat de l'Église catholique parce qu'on n'est pas catholique ». Problème réglé, 1919, les statuts précisaient qu'on se référait à l'encyclique Rerum Novarum, qui était quand même le premier texte de portée mondiale avec une véritable vision à la fois économique et sociale. Donc syndicalique, mais je vous le dis parce que vous regardez dans l'histoire du syndicalisme, toujours sur Google, etc., on vous dira que non, et que d'ailleurs en 1964, il y a eu une crise de déconfessionnalisation avec la création de la CFDT qui a déconfessionnalisé. Ma seule question aux intellectuels qui écrivent, je leur écris d'ailleurs, quand je vais les prendre de fac pour apprendre ça, je leur écris et je leur demande à quelle époque la CFTC était confessionnelle, parce que pour déconfessionnaliser quelque chose, il faut qu'il ait été confessionnel à un moment. Ça n'a jamais été le cas. Donc on s'inspire. Et c'est fort, c'est notre raison d'être, c'est cette inspiration sociale chrétienne, ce qui est aussi un espace de liberté. Parce que quelquefois, oui, mais le dernier C, ça va faire un rejet, machin, tout ce que vous voulez. Non, ça oblige à expliquer. Et quand on explique, ça se passe quand même plutôt bien. La preuve, c'est que depuis maintenant quelques mois, nous sommes la première organisation syndicale en Île-de-France sur les écoles et Zatora, sur les écoles juives. Pourquoi nous sommes la première organisation syndicale? Parce que pour les écoles juives, la spiritualité, le religieux, quelque chose d'important et d'essentiel. Et ils ont compris que dans notre logiciel, ça, on l'acceptait totalement. Je m'occupe de l'international et j'ai les amis de l'Union Générale et l'UGTM, l'Union Générale des Travailleurs Marocains, qui m'ont demandé de venir former leur cadre. L'UGTM, c'est, selon les années et selon les sources, le plus gros ou le deuxième syndicat au Maroc. En tout cas, un des plus gros. Pourquoi ils ont fait cette démarche? J'aurais posé la question, hein, quand ils m'ont dit, je suis ravi, mais pourquoi venez me voir? Parce que t'es un mec sympa, on te connaît, oui, d'accord, mais c'est peut-être un peu insuffisant. La France, on a beaucoup de Marocains en France, il y a des liens historiques, la langue, d'accord? D'accord, mais il y a d'autres organisations syndicales plus importantes en France que la CFTC, c'est 10%. On dit, oui, mais on ne veut pas de syndicats révolutionnaires, si on ne veut pas qu'ils viennent mettre le bazar, alors pourquoi ils font cette démarche? Parce que du côté du palais, du côté du roi, on leur a dit vous pouvez la faire, parce qu'ils ont compris une chose, c'est que s'ils n'avaient pas reculé la pauvreté, ils avaient les barbus au pouvoir. Et qu'ils n'ont pas envie d'avoir les barbus au pouvoir. Ils sont tous musulmans, mais ils ne sont pas extrémistes. Et donc, on dit il faut une véritable classe moyenne, éradiquer la pauvreté, donc on a besoin d'un véritable syndicalisme. Quand ils m'ont dit on ne veut pas de révolutionnaire, on veut avancer, mais sans mettre le bazar, mais oui, mais en France, y en a d'autres, au moins une autre que vous connaissez aussi bien que moi, et qui est plus grosse, qui a plus de moyens. Oui, oui. Et vous, à la CFTC, vous avez le dernier C. Oui, alors. Et nous, au Maroc, la religion, c'est essentiel. Et vous, dans votre compréhension du monde, vous avez forcément cette acceptation de notre dimension religieuse. Vous voyez que c'est plus un C d'ouverture qu'un C de fermeture sur les valeurs. Et c'est très intéressant de travailler comme ça, ce qui fait qu'on a d'ailleurs pas mal d'adhérents musulmans, pratiquants ou pratiquants, d'ailleurs c'est pas notre problème, mais ils sont même majoritaires dans certains syndicats de la CFTC. Par exemple, dans le nettoyage, maintenant, les musulmans sont majoritaires chez nous. Il y a quelques années, c'était les Portugais. Vous voyez, les choses évoluent. Alors, et ça pose zéro problème. Mais vraiment, zéro problème. Sur l'histoire du syndicalisme, il y a cette branche. Et puis, vous avez la branche révolutionnaire. Et ça, c'est un vrai choix. Pose les choses. Alors, on nous appelle quelquefois réformés. J'aime pas le terme. Parce que la réforme pour la réforme, à mon sens, ça ne veut strictement rien dire. Il y a des réformes qu'il faut faire, et il y en a d'autres qui sont totalement inutiles et qui seraient même mauvaises. Je préfère dire qu'on est un syndicalisme constructif, combatif. C'est plus fort, c'est plus solide, et dans les relations sociales, évidemment, la grève, c'est le dernier recours, on va essayer d'éviter le conflit. Toujours essayer de passer par la négociation, par le dialogue, qui est plus fort sur la durée, sur le long terme, que le conflit. Pour nous, un patron n'est pas forcément un ennemi, ni un adversaire, c'est un patron. Un salarié n'est pas forcément un saint, sinon on l'aurait remarqué, on le saurait tous. Tout ça, c'est la patte humaine, mais chacun sauront la tenir. Alors, ça se passe, on ne le voit pas tous les jours dans nos entreprises et dans nos branches, qui se passe via le syndicalisme salarié et patronal d'excellentes choses. On règle des problèmes, on en évite. On construit. L'image qu'on a du syndicaliste, c'est pas celle-là. Parce que ce qui intéresse les médias, c'est si je sors dans la rue, que je séquestre un patron, que je brûle une bagnole, alors là, j'ai le 20h, c'est super, c'est génial. Mais si on est arrivé en amont à éviter le conflit, ça n'intéresse strictement personne. Et si on a obtenu des avancées intelligentes, ça n'intéresse strictement personne. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que sur les chaînes de télé, les médias, ils ont besoin de faire de l'audimat, ils ont besoin de vendre. Et dire qu'on a fait des bonnes choses, ça ne fait pas vendre. C'est vrai. Ça attire pas. Par contre, des bagnoles qui brûlent, un conflit, ça attire. Ça, c'est la première raison, et je comprends leur fonctionnement médiatique. Il y a une deuxième raison, c'est la raison idéologique. Alors maintenant, en France, vous avez... Pendant 4 ans, il y a des élections dans les entreprises. Au bout de 4 ans, on arrête les compteurs, on regarde le poids des uns des autres. Et on a ce poids par métier. Là, on vient d'avoir, sur les 4 dernières années, le compteur qui s'est arrêté. On a eu les chiffres le mois dernier. Alors, je suis allé regarder chez les journalistes comment ils votaient. Je prends Sud Solidaire, donc, qui est plutôt gauche-gauche. Je prends la CGT. Et j'ai 63% du vote des journalistes. Alors, je leur reconnais tout à fait le droit de voter pour Sud, pour la CGT, pour qui ils veulent. Ça commence à m'inquiéter quand ceux qui informent sont dans tellement monopolitiques au niveau idéologique. Ce qui explique souvent la façon dont les choses sont retraduites. Et c'est assez inquiétant. Et alors, nous, on a la mauvaise place parce que... d'un côté, il y a ceux qui, par idéologie, vont plutôt mettre en avant les syndicats révolutionnaires. Voilà, c'est pas nous. Et puis de l'autre côté, il y a les autres. Mais eux, ils n'aiment pas les syndicats du tout. Et donc, c'est difficile de passer. Entre ceux qui considèrent que les syndicats, c'est forcément mal, et ceux qui considèrent que c'est les syndicats révolutionnaires qui sont forcément bien, c'est difficile de montrer ce qu'on fait et d'avancer. Mais ça se fait progressivement. Ce qui est plutôt bien. C'est un travail, moi je reconnais, alors, pour l'ensemble des militants syndicaux, quelle que soit leur étiquette, que chez nous il y a des gens très bien et des gens beaucoup moins bien, chez les autres aussi. C'est pas l'étiquette, c'est la patte humaine. Hein. Et je reconnais aux militants syndicaux, aux militants de base, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces gars, ces femmes qui prennent du temps, qui souvent sacrifient leur carrière pour les autres. Alors je sais qu'il y a des endroits où il y a des carrières syndicales, moi je suis issu du privé, je connais le privé, je sais que dans les services publics c'est quand même un peu différent. Dans les grosses boîtes ça peut être un peu différent, les boîtes de taille normale, moyenne, etc. Vous avez des gens qui tous les jours et avec une réussite qui me paraît évidente quand on connaît les choses. Regardez en Allemagne, dans les abattoirs allemands, jusqu'à il y a quelques mois, les salariés étaient payés 3,50 euros à 4 euros de l'heure pour un travail très difficile, très lourd. Pourquoi ? Parce que ils n'avaient pas de convention collective. Donc il n'y avait pas de droit du travail national qui s'occupait d'eux, pas de salaire minimum. Ça a eu deux conséquences, une concurrence déloyale vis-à-vis notamment de nos abattoirs, comment nos abattoirs, notamment les abattoirs bretons, pouvaient résister et peuvent résister à une concurrence comme celle-là, impossible. Alors je vous rassure, en Allemagne, c'était en Allemagne, mais c'était des Polonais, des Slovaques, des machins qui travaillaient, on casse en 2 ans, et puis on les jette, on en prend d'autres. Et en France, ça vous l'avez pas. Pourquoi ? Parce qu'on a un salaire minimum. Et parce que nous avons 96% des salariés qui sont couverts par des conventions collectives. Ça veut dire aussi quoi ? Ça veut dire qu'il y a des syndicalistes qui tous les jours protègent les gens, que tout le monde en profite et en bénéficie, mais ça ne l'aperçoit pas. Et si je supprimais, comme ça se passe dans certains pays d'ailleurs, dans certains pays, c'est uniquement les adhérents des organisations qui signent les accords, qui bénéficient de l'accord. J'aurais un taux de syndicalisation en France bien plus élevé. Et quand on nous fait les comparaisons, en gros, il y a 8% de syndiqués en France, ce qui est très peu, très faible, j'en suis d'accord. Enfin, quand un politique me dit ça, je lui demande quel est le taux d'adhérents au parti politique en France. Et c'est pas avec ces 1% qu'il va venir donner des leçons à ceux qui en font 8. Avec des cotisations plus chères que les cotisations politiques. Pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Mais on me dit, oui, mais regardez, les autres pays, ils sont bien plus nombreux. C'est vrai. Mais on ne fonctionne pas pareil. Belgique, dans les pays nordiques, pour toucher le chômage, c'est mon organisation syndicale qui me verse le chômage. Je mets le même système en place en France. Dès demain matin, il y a 6 millions de personnes qui ne sont pas adhérentes qui adhèrent. Pas forcément à la CFTC, mais vous voyez. Et on vous fait des comparaisons qui n'ont strictement aucun sens. En Allemagne, dans les entreprises de plus de 2500 salariés, la moitié du conseil d'administration est constituée de syndicalistes. Même pas de représentants des salariés de l'entreprise. De syndicalistes. C'est ce qu'on appelle la cogestion. Ça marche pas si mal. C'est pas le même état d'esprit. Quand on vous fait les comparaisons, je vais aller visiter une usine BMW il y a peu de temps. Le directeur de l'usine, celui qui a la tête de l'usine, le patron de l'usine, usine performante, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, qui rentrent par l'apprentissage. Lui est d'ailleurs rentré par l'apprentissage, mais à la différence de la France, on rentre comme apprenti et puis on continue et il évolue. On passe des diplômes, mais c'est la normalité. Il a été délégué syndical, il a été, et maintenant c'est le patron de l'usine. Ça ne choque personne. Ça se passe sans aucun problème. Ce n'est pas dans notre logiciel français, malheureusement. D'où peut-être l'état du syndicalisme en France, trop politisé à mon sens, et qui ne sait pas assez mettre en avant ce qu'il fait de bien. Mais nous ne sommes pas non plus aidés par l'extérieur pour mettre en avant ce qu'on fait de bien. Vous avez l'impression qu'on existe quand on manifeste, quand on bloque, quand on est en grève. Et quand je communique sur une grève, notamment dans les transports, en disant la CFTC, nous sommes contre cette grève. Là, ce jour-là, parce qu'il nous semble que le motif de la grève ne vaut pas le coup de bloquer les trains, de bloquer les transports. Je l'ai fait déjà plusieurs fois. En disant, voilà, il y a eu une grève, c'était pour améliorer le système de retraite des cheminots. J'ai rien contre le système de retraite des cheminots. Enfin, c'est pas le plus mauvais quand même. Et bloquer les trains, bloquer les usagers, bloquer l'économie, même pendant une journée, pour améliorer la retraite des cheminots, je trouve qu'il y a un peu d'indécence, parce que de l'autre côté, il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler, qui ne seront pas payés, qui risquent de perdre leur boulot. Il y a des entreprises qui sont bloquées. Quand je communique comme ça, je communique, je connais les voies, je sais à qui m'adresser, j'envoie au service social de l'AFP, j'envoie aux journalistes qui s'en occupent, etc. Et vous n'avez aucune reprise. Donc pour vous, public, vous dites, les syndicats sont des crétins, il y en a marre qui nous bloquent les trains. Et vous ne savez pas que dans les syndicats, c'est pas les syndicats, c'est certains, et qu'il y en a d'autres qui disent on n'est pas d'accord. Voilà. Voilà. Je voulais un peu vous brosser ce témoignage d'un syndicaliste un peu engagé et heureux de faire ce qu'il fait. Maintenant, si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez vous lever tout d'un coup et acclamer en disant syndicaliste, je ne l'ai jamais vu comme ça, c'est un truc génial, d'ailleurs j'ai rien outil. N'hésitez pas. Mais si vous avez des remarques et des questions sur les débats, notamment économiques, où on nous raconte beaucoup de bêtises. Peut-être que je vais terminer par là. Est-ce que ça va. On nous met dans la tête beaucoup d'avis. Et les uns et les autres, comme on est informés, très mal informés, on s'imagine à certains moments qu'il y a des problèmes qui n'existent pas. Alors je vais essayer de vous le démontrer par quelque chose que vous devez connaître, c'est les 35 heures. 35 heures, on vous en parle beaucoup. Certains sont pour, certains sont contre, etc. C'est donc qu'on nous dit qu'il y a un problème de durée du travail en France. Alors ce débat, je l'ai eu récemment sur une chaîne de télé avec un économiste, conseiller de chef d'entreprise, qui est un soutien de M. Macron. Alors je le dis, je ne vais pas faire de marquage politique, mais je dis qu'il est un soutien de M. Macron, parce que dans le débat, il a commencé par dire, mais s'il y a bien une chose avec laquelle je suis d'accord avec M. Fillon, c'est qu'il faut supprimer les 35 heures, faut, etc., parce que c'est invraisemblable pour l'économie française, un carcan. Très bien. Après, j'ai eu la parole. On m'a dit, mais vous, c'est tout mal, le syndicaliste, qu'est-ce que vous pensez des 35 heures? Je vais poser une question à M. Tétrault, l'air de bien connaître le sujet. Est-ce qu'il peut me citer le texte de loi qui interdit à un chef d'entreprise de faire travailler ses salariés au-delà de 35 heures? Et je me suis tué. Et à la télé, le silence, ça fait long. Mais j'ai vu dans sa tête, là, un petit mécanique. Mais vous n'avez pas compris ma question. La question, vous êtes contre les 35 heures, est-ce que vous pouvez me citer le texte qui interdit à un chef d'entreprise de faire travailler ses salariés au-delà de 35 heures? Parce que si vous me le donnez, moi je vous donnerai le texte qu'oblige un salarié à travailler au-delà de 35 heures sur une demande. Et s'il refuse, c'est une faute qui peut aller jusqu'au licenciement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en plein baratin idéologique. On n'a aucun problème de durée du travail en France. On a éventuellement un problème de coût du travail. Effectivement, à partir de la 36e heure, je vais payer les heures supplémentaires, normalement 25%, ça peut être un peu moins, je vais payer 25%. Payer 25% de plus peut obérer la rentabilité. Ça, je suis capable de le comprendre. Le problème, il est là. Il n'est pas dans la durée du travail. La durée du travail, elle peut aller jusqu'à 48 heures et par dérogation exceptionnelle, jusqu'à 62 heures par semaine. Ça va être suffisant. Après, il faut embaucher, les gars. Faut arrêter. Mais on nous met tous dans la tête, et vous pouvez reprendre avec entière bonne foi qu'il y a un problème de durée du travail. Alors, ce que je vous dis là, j'ai été invité il y a quelques semaines à un groupe qui est original, ils invitent des gens et en fonction de la personne qu'ils invitent, c'est en Normandie, à Caen, ils changent de lieu. Un syndicaliste, on l'avait invité dans une usine. Alors à 20h30, dans l'usine, au milieu de l'atelier, des machines qui continuent à fonctionner à l'arrière-plan, une usine qui fabrique, enfin qui conçoit des pièces un peu spécialisées pour l'automobile. Avec le chef d'entreprise qu'il a, il a sa PME, 150 salariés à Caen, il a ouvert un truc en Pologne où il a 120 salariés, il est en train d'ouvrir une autre usine en Irlande. Mec dynamique, il connaît les sujets quand même, il a sa boîte, il a deux pieds sur terre, et je lui fais cette petite démonstration. Derrière, il a pris le micro, il dit, voilà ce qu'il va dire. Il dit, mais M. Tournel a tout à fait raison, je n'ai aucun problème de durée du travail, mon problème il n'est pas là. Le problème est effectivement le coût. Il est le changement récurrent des règles, des lois, des textes. Il est un excès de réglementation par rapport à ma concurrence. Il est là mon problème. Et on nous met tous dans la tête qu'il y aura un problème. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a de l'idéologie, et ce qui serait bien, c'est qu'on atterrisse et qu'on fait. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc vous avez peut-être des choses à dire. Au moins 30 secondes.
Entre les candidats, on a vu beaucoup de différences en ce qui concerne les retraites. Qu'est-ce que vous pensez de tous les débats sur les retraites?
Alors, je ne suis pas un spécialiste des retraites, mais je connais un peu le sujet. Un, il est indéniable que plus on a une population qui vieillit, plus on a de retraités à faire vivre, donc il y a des équilibres financiers à tenir. Et on se débrouille pas mal. Puisque ça, c'est géré entre patronat et syndicat, alors on en parle beaucoup parce qu'on s'engueule, c'est normal, on négocie, on va jusqu'au bout, alors on nous fait croire, ils vont jamais signer, ils vont jamais se mettre d'accord, ça c'est la négociation, comme les négociations commerciales, la négociation sociale, c'est pareil, il y a tout un côté théâtre, il y a tout un côté, et à la fin on se met d'accord. Ce qui est arrivé tout récemment, puisque j'ai moi-même signé l'accord il y a 10 jours. D'accord, pour trouver des équilibres qui demandent un effort. C'était la répartition entre l'effort de l'entreprise, des salariés, etc. Quand je regarde d'ailleurs le déficit de nos caisses sociales et notamment retraite, l'État paierait ses dettes, le déficit n'existerait quasiment plus. Alors après, il y a différents régimes. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aller vers quelque chose de sensé. Mais ça ne veut pas dire le même régime pour tous. Ça veut dire que j'ai un cousin qui a mal tourné, il n'était pas à la CFTC, il était à la CFDT. À la RATP. Il a fait une carrière entièrement syndicale. Dans un bureau. À 52 ans, il était à la retraite pour pénibilité. Et lui-même me dit, mais c'est pas normal, hein, j'en profite. Mais je me suis jamais levé à 3h du matin pour aller prendre un bus ou conduire un métro, j'ai pas travaillé les jours fériés, etc. Là, il me semble qu'il y a une petite anomalie, et qu'il faut remettre un peu les choses dans l'ordre. Oui, il y a des métiers pénibles, et dans ces cas-là, il faut qu'ils puissent partir plus tôt, parce qu'on sait d'ailleurs statistiquement qu'ils vont mourir plus tôt, alors qu'au moins ils puissent bénéficier un peu de la retraite. Mais il y a aussi des abus, créés par l'histoire, pas par méchanceté, sur lesquels il faut pouvoir revenir, avoir le courage de revenir, pour que les choses, alors ça s'appelle le bien commun. Mais on a beaucoup de difficultés à... Alors mon père, j'espère que vous allez faire premier miracle du Christ, on va parler de marge. Absolument. Tout ça, c'est des effets. Merci. Voilà, pour les retraites, je crois qu'il faut aller sans non plus tout bazarder, parce qu'il y a des gens aussi qui ont pris un métier, etc., avec un certain nombre de conditions. Il n'y a pas de raison de leur couper du jour au lendemain.
La discussion...
Progressivement, il faut aller vers quelque chose qui soit plus juste.
La discussion sur les retraites, c'est surtout, essentiellement autour de l'âge. On ne parle pas du système de répartition et voir s'il y a d'autres systèmes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui existeraient éventuellement?
Nous, on est l'avis de permettre aux gens de partir. Alors ça, c'est rentré un peu dans les textes, totalement. De dire, à un moment donné, vous avez le choix de partir à la retraite, on vous donne tous les éléments, ce que vous toucherez, et si vous voulez partir à la retraite, vous pouvez partir. Si vous voulez continuer à travailler, vous continuez à travailler. En mettant une autre barrière, en disant à un moment donné, alors après tout ça, il ne faut pas le figer. Il faut regarder avec l'évolution justement, et démographique, et des caisses de retraite, et de l'emploi. Parce que si l'emploi repart, on n'a plus du tout les déficits qu'on connaît. Donc il faut pouvoir, il ne faut pas figer les choses, mais il faut mettre des curseurs qui peuvent, qu'on peut regarder tous les ans pour faire évoluer. Mais en mettant aussi une autre barrière, en disant, bon, d'accord, mais à partir d'un certain âge, si vous voulez continuer à travailler, d'accord, mais tout ce que vous cotiserez pour la retraite, ben, à mesure où vous avez une retraite à taux plein qui est décente au moins à... les cotisations pour la retraite iront pour le système général et pas pour vous. Parce qu'il faut aussi un peu laisser de la place aux jeunes. Et donc permettre un espace de liberté et de choix, mais éviter aussi les vieux ratatons. Enfin, quand je vois Jack Lang, qui vient d'être nommé encore à la présidence de machin, et qui va toucher la retraite, il est très gentil, Jack Lang, il est de la même origine que moi en Lorraine, il ferait bien d'aller sur ces terres de Lorraine et laisser quelqu'un de plus jeune gérer quelque chose d'important. Il y a de l'indécence. Donc à un moment donné, il faut aussi faire de la place aux jeunes. Mais c'est ces équilibres intelligents qu'il faut faire. Donc voilà. Et si l'emploi repart, évidemment, c'est plus de cotisations qui rentrent et on a des déficits qui vont partir à la baisse. On arrivera certainement à supprimer. Maintenant, est-ce que l'emploi repartira dans les prochains mois? Je n'y crois pas.
Je voudrais par rapport à une remarque tout au début sur la naissance des syndicats. C'est un peu, je suis désolé, c'est un peu une question à tiroir. Sur la naissance des syndicats et sur ce côté familial, je paye plus, je suis patron social chrétien, je paye plus mon employé qui a 5 enfants, 6 enfants, que mon jeune célibataire. Et puis vous parlez de l'intérêt général.
Du bien commun.
Du bien commun, pardon. Du bien commun. On voit aujourd'hui tous ces avantages pour les familles, pour ceux qui ont fait l'effort d'avoir des enfants, pour les femmes qui ont eu des enfants, sont justement, alors pas pour la retraite, mais aussi dans les salaires, c'est pas du tout admis par l'individualisme. Au boulot, je fais le même boulot que toi, t'as 6 enfants, c'est pas mon problème, on traite le même nombre de tableaux Excel à la journée. Et en plus, de temps en temps, tu prends des journées en sang malade, donc finalement, tu devrais être moins payé. Il y a ça, donc il n'y a pas de raison que tu aies une meilleure retraite. Et là, on voit bien qu'il y a le problème du bien commun. Et puis, vous avez parlé tout au début aussi de l'idéologie ce 19e siècle noir pour la condition salariale, le travail. On a un peu cette impression. Ça fait très peur, on se dit on va arriver dans sur un nouveau 19e siècle où les règles du jeu, et on pourra facilement nous dire oui, mais de toute façon, dehors la concurrence elle n'est plus entre l'usine Lorraine et l'usine du Nord, mais de toute façon la concurrence elle est mondiale, donc, et on ne pourra pas imposer comme on pouvait imposer à l'usine voisine les mêmes conditions, on ne pourra pas imposer aux Chinois sur Paris.
Alors, trois choses pour répondre, je vais essayer d'aller vite, parce que moi j'ai la boire et pas vous. La première quelque chose que je n'ai pas dit sur le 19e siècle, je comprends des révoltes. Parce qu'il y avait des situations absolument révoltantes. Quand vous voyez vos parents, vos frères, vos soeurs, ceux que vous aimez, vos proches, mourir au travail, mourir du travail, je comprends qu'il y ait la révolte. Ce que je condamne, c'est les idéologies qui nous disent que c'est que par la révolte, et par la révolte, et par la violence qu'on arrive. La violence enchaîne toujours la violence. Et sur cette grande injustice du 19e siècle, avec en plus l'industrialisation, qu'est-ce qu'on a vu naître? Ces deux grands courants humanistes qui se sont appelés le nazisme et le communisme. Ça va quand même faire un peu marcher les têtes. C'est-à-dire que si on peut reproduire des choses un peu similaires, on a besoin de ne pas recréer le 19e siècle. Sur la politique familiale, alors le syndicalisme, c'est pas que l'entreprise, ça ouvre aussi des voies. Je suis administrateur de la caisse d'allocation familiale de Paris, depuis maintenant 3 ans, parce que, à un moment donné, parce que nous avons un poste. On a même 2 postes. Je me suis dit, allons voir un peu sur la politique familiale ce qui se passe. C'est très très intéressant. D'abord, la politique familiale en France, si vous avez l'impression, enfin, première chose, la caisse d'allocation familiale, la nationale, est structurellement bénéficiaire. Et pour la caisse famille est structurellement bénéficiaire. Et pourtant, on nous sort des déficits. Magique. Alors comment ça se passe? Le PI a commencé sous Giscard et depuis a fait que croître l'embellir. La caisse est bien gérée, donc elle est bénéficiaire, donc elle regarde les prestations pour les familles. Et là, l'État, elle dit « Oh, mais là, il y a du pognon, camarade !» Alors je vais vous en piquer un peu. Alors vous avez prêté de l'argent, c'est ce qu'a commencé sous Giscard. Alors la Caisse nationale a prêté des millions et des millions, qui aujourd'hui n'ont jamais été remboursés. Après, j'ai dit, mais prêt d'argent, non, on va faire autre chose. On va vous donner des missions. Aujourd'hui, par exemple, la CMU, c'est les départements, les collectivités locales qui payent, mais c'est géré par les caisses d'allocation familiale. Est-ce qu'on peut? Non. Les caisses d'allocation familiale gèrent un certain nombre de systèmes de retraite. Est-ce son rôle? Non, mais c'est elle qui paye. Et il y a eu un député socialiste qui a fait un rapport qu'il a rendu en juillet dernier, qui est passé sous silence,
où il a juste constaté dans son rapport que sur, je raconte bêtise, c'est 46% des ayants droit des caisses d'allocation familiale n'ont pas d'enfants. 46%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sacrifie la politique familiale pour financer d'autres politiques. Alors je ne dis pas que ces autres politiques ne sont pas nécessaires. Je dis juste qu'on fait le choix d'affaiblir les familles pour financer autre chose, et qu'on n'a même pas le courage de le dire, et donc qu'on pompe, et effectivement, les caisses d'allocation familiale s'occupent de beaucoup de choses qui ne sont pas les allocations familiales. Alors après, il y a encore autre chose, je vois un petit administrateur, et moi qui me choque, alors je suis en train de travailler, à un moment donné, je vais le donner, alors ça, la presse va certainement le reprendre, parce que ça va faire du sang à la une, on attribue des aides pour le logement, pour les familles qui en ont vraiment besoin. Il y a des conditions légales, c'est-à-dire qu'une personne c'est en mètres carrés, deux personnes c'est en mètres carrés, trois personnes. Mais il y a des gens qui sont logés, qui sont dans des logements qui sont bien plus petits que le nombre de mètres carrés légal. Alors, on accorde des dérogations. Alors, je suis le président de la commission qui regarde ça. On a les dossiers qui arrivent. Alors, ce que je veux vous dire, c'est pas inventé. Vous avez 16 mètres carrés. 4 personnes. Et on vous dit, il faut vous donner une dérogation parce que sinon, on leur retire l'aide, etc. Donc, de toute façon, on donne la dérogation parce qu'on ne va pas les mettre à la rue. La seule chose, première question. Que ça soit une situation provisoire ou d'urgence. Oui. Là, c'est des dossiers, ça fait 2 ans que ça dure. Comment voulez-vous que des gens qui vivent à 4, normalement, il y a 2 enfants, et j'ai pas qu'un dossier comme ça, de ce type, plusieurs, ne deviennent pas fous. C'est impossible, impossible de vivre dans ces conditions. Puis vous regardez le loyer quand même. 3 000 euros par mois. La première fois, quand j'ai vu ça, il y a une erreur là. C'est pas 3 000 euros, il y a un truc. Si, si. Attendez, si, si. Avec 3 000 euros par mois, on peut pas faire autre chose? Ouais, c'est très compliqué, hein. Mais vous avez raison. Mais ça, c'est pas notre responsabilité. C'est la responsabilité à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des marchands de sommeil, parce que oui, derrière, c'est ça, de toute façon, ce sont des hôtels, c'est connu, qui sont des marchands de sommeil, qu'on mange des sommes fabuleuses. Et tout le monde s'en fout, puisque lui, le préfet qui regarde tout ça, il est content dans ses statistiques. J'ai relogé ou maintenu en logement 4 personnes. Super pour les statistiques. C'est indécent. C'est pas la majorité des dossiers, mais il y en a un certain nombre. Donc on a quelque chose dans le système qui ne va pas. Et sur la politique familiale et les familles, il y a des efforts à faire. Et il y a, avec 3 000 euros par mois, vous devez pouvoir loger un peu plus décemment les gens. Mais c'est plus difficile, ça c'est sûr. Et la dernière partie, j'ai oublié, il y avait 3 choses, la dernière partie de... Oui, mais bien commun, mais au-delà de la politique familiale.
La concurrence, enfin voilà, c'est parti. Et qu'est-ce qui m'amène en tant que chrétien, justement? Comment on fait?
Oui, oui.
En fait, comment on peut lutter idéologiquement contre ceux qui nous assomment, et que de toute façon, on n'a pas le choix?
Première chose, effectivement, on se pose des questions à juste titre sur l'évolution des métiers, l'ubérisation, etc. Il n'y a jamais de fatalité. Vous aviez la... Il n'y a jamais de fatalité. L'histoire, elle se fait ou se défait par le courage, la lâcheté ou l'indifférence des hommes et des femmes. Donc à nous, la tombe à l'être. C'est nous qui faisons l'histoire. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'histoire qui va dans un sens ou dans l'autre. C'est les hommes, les femmes, avec notre lâcheté, notre courage ou pas. Après, les choses évoluent. Nous, à la CFTC, sur l'ubérisation, ces nouveaux métiers, on avance en disant, ben voilà, il faut rebâtir un peu nos schémas, regarder les travailleurs, et donc tous ceux qui travaillent, alors tous ceux qui travaillent, c'est le salarié tel qu'on le connaît, c'est le soi-disant indépendant qui travaille pour Uber, qui n'est pas indépendant du tout, c'est l'indépendant, la profession libérale, c'est l'artisan, c'est le commerçant, tous ces gens-là sont des travailleurs. Donc toutes ces personnes doivent avoir un certain nombre de droits. Par exemple, s'ils ont travaillé toute leur vie, le droit à une retraite décente. Ça veut dire que toutes ces activités doivent financer cette retraite. Et donc, remettons les choses un peu à plat. Ça veut dire que le salarié d'Uber, on ne peut pas les laisser pendant des années cotiser epsilon pour ensuite, à la fin de leur carrière, ne plus pouvoir travailler et venir crier au secours solidarité nationale parce que je meurs de faim, parce que j'ai quasiment pas cotisé pour la retraite. Ça veut dire qu'il faut imposer, dans ces cas-là, dans le schéma, que leur travail rémunère aussi leur future retraite. Il faut avancer, il y a ceux aussi qui contrôlent les logiciels, qui sont les logiciels qui permettent de travailler. Là, il faut changer nos textes. Aujourd'hui, on connaît le contrat de travail, le contrat de subordination, mais il faut regarder la subordination économique. Dans un certain nombre de cas, la subordination n'est plus un lien direct contractuel du contrat de travail, mais une subordination économique. Et dans ces cas-là, il faut regarder où vont les profits. Ce n'est pas un gros mot. Je n'ai rien contre les profits, je suis même pour. Je pense que les sociétés, les entreprises se développent plus en faisant des bénéfices qu'en faisant des pertes. Je suis un garçon resté relativement simple là-dessus. Mais s'il y a les profits, celui qui a les profits, même si celui qui contrôle le logiciel, eh bien, il doit participer de manière cohérente à la protection sociale des gens qui font travailler. Et là-dessus, j'ai eu un débat avec le numéro 2 du MEDEF, qui est quelqu'un qui n'est pas antipathique, hein, pas totalement idiot non plus, hein, qui trouvait que tous ces systèmes, et ça ne s'adapte pas mieux, ça devient 9 mois, tous ces systèmes, c'est très intéressant, oui c'est intéressant, parce que comme tout système humain, invention, nouvelle technologie, on peut en faire d'excellentes choses ou de très mauvaises choses, ça dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Et il a pris cet exemple terrifiant. Alors, j'étais récemment aux États-Unis, et j'ai vu comment Coca-Cola fonctionnait, c'est absolument génial. Coca va livrer. Un camion de Coca part pour livrer. Et là, il y a tous ceux qui ont un iPhone, un machin, et qui se sont inscrits. Et puis quand le camion de Coca, il arrive à 5-10 minutes du magasin qu'il veut livrer, il le met sur l'iPhone, et celui qui est le plus près, qui est inscrit pour bosser, il court. Et c'est lui qui va décharger le camion, et il sera payé à la tâche pour décharger. Et il trouvait ça génial. Oui, c'est super génial, c'est très moderne. C'est ce qui se passait d'ailleurs au 19e siècle, au 18e et au 17e siècle sur les ports aux États-Unis, où quand un navire arrivait, on sonnait la cloche et premier arrivé, premier servi pour bosser. Terrifiant comme système. Ça met dans une insécurité permanente, dans une fragilité. Donc le logiciel en lui-même, c'est pas mauvais, c'est l'utilisation qu'on va en faire, et avec ses dérives. Il n'y a pas de fatalité. Alors, il y a d'autres dérives. Il y a la dérive sur les familles. Google, Wanadoo, toutes ces grandes boîtes américaines ont pondu un truc génial qui s'adresse aux femmes. Alors, en disant, femmes, faites de bonnes carrières professionnelles. On va vous aider à le faire. Nous vous payons. Si vous voulez geler vos ovocytes, on vous paye l'opération et on paye la banque. Et comme ça, vous n'allez pas nous emmerder avec vos grossesses, c'est quand même très chiant pour les entreprises. Hein. Vous allez faire votre carrière professionnelle et puis quand on vous jettera à l'âge de 50 ans, parce que vous serez un peu moins vif que les jeunettes, vous porterez moins bien la grande jupe, et ben vous pourrez faire des gosses en ressentirant vos ovocytes. Terrifiant. La prise d'entreprise sur la vie de couple, sur la vie. Et ça n'a pas l'air de choquer. Et ça, c'est des dérives qui sont des dérives, je trouve, absolument terrifiantes. Alors que la bonne chose, c'est d'arriver à organiser les équilibres entre vie familiale et vie professionnelle. À accepter que des gens aient des vies professionnelles où on puisse travailler intensivement et puis à un moment donné. Faire autre chose, s'arrêter pour aider ses enfants. Oui, c'est pas un gros mot, ça rend service à la société. Mieux vaut avoir des parents
bien éduqués
qui peuvent s'occuper de l'éducation de leurs enfants que des parents qui ne peuvent pas. Et je pense par exemple à ces mères de famille qui sont pour beaucoup des femmes célibataires, qui travaillent dans les grands magasins, qui sont très peu payées. Salaire moyen d'une caissière dans les grands magasins, c'est 850 euros par mois. Alors je parle en net. Non, parce que le truc, c'est que vous leur faites un contrat de travail à temps partiel. Donc elles sont comme ça, et quand vous leur dites
Vous avez la liberté de travailler le dimanche ou de venir travailler jusqu'à 22h. Et vous aurez un peu plus. Ben, elles sont obligées financièrement. Elles sont obligées de dire oui. Et ça, c'est toute l'arnaque aussi du travail le dimanche ou des heures de nuit. Et c'est redoutable parce que faut pas s'étonner qu'il y ait de moins en moins de jeunes des classes populaires qui accèdent aux études supérieures. Il y en a de moins en moins. Parce que dans ces familles-là, qui va suivre les devoirs? Moi, nos enfants, on a la chance avec mon épouse, de, quand ils rentrent à la maison, on a quelqu'un qui était là pour dire « tu as fait tes devoirs, tu as appris tes leçons ». Mais si les parents ou la mère est en train de vendre des chaussettes dans les grands magasins à 22h, ça veut dire qu'elle n'est pas chez elle avant 23h parce qu'elle n'a pas les moyens d'habiter Paris. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gamins? Pareil pour le travail du dimanche, qui est un vrai sujet. C'est un choix de société. Et ça correspond à mon choix syndical à la CFTC. Nous sommes de ceux qui pensons que la société doit s'organiser pour laisser un temps où la production et la consommation est entre parenthèses, pour permettre des choses aussi simples et aussi nécessaires que la vie familiale, la vie personnelle, la vie associative et la vie spirituelle. Et que même si économiquement ça nous fait perdre un peu, mieux vaut perdre un peu économiquement que perdre sa vie dans le matérialisme. Et en plus, sur ce sujet, économiquement, c'est l'ouverture des grandes surfaces du dimanche, parce qu'aujourd'hui, en fait, on nous parle du travail du dimanche. Le seul sujet, c'est les grandes surfaces et les centres commerciaux. Vous avez dû remarquer que depuis le Moyen-Âge, les marchés traditionnels fonctionnaient le dimanche, votre boucher est ouvert, votre charcutier, votre boulanger. Ce qui ne choque personne, ce sont nos équilibres. L'enjeu, c'est les centres commerciaux et les grandes surfaces. Et c'est le basculement de la société. Moi, je remercie ceux qui travaillent le dimanche pour qu'on ait de la sécurité, des hôpitaux, des transports, des activités ludiques et les commerces de proximité. Mais on est en train de basculer la société sur une banalisation et les premiers touchés sont les plus faibles. Et quand on nous dit, alors, sur l'emploi, ça tue de l'emploi. Et à la fois le bon sens qui nous le dit, regardez au rayon chaussures de votre grande surface, zéro salarié. Le chausseur de centre-ville, c'est une, deux ou trois personnes qui travaillent. Le commerçant, l'artisan, c'est un travailleur, c'est un emploi. Et l'ouverture des grands commerces le dimanche, ça accélère la fin du commerce de proximité. Donc en termes d'emploi, c'est moins bon. Et il y a même des gens qui ont fait des études là-dessus, c'est le patronat italien. Alors, il ne faut pas toujours prendre le patronat. Et quelquefois, il est intéressant de regarder ce qu'il écrit. Le patronat italien fait une étude. Il a vu que depuis que les grandes surfaces avaient l'autorisation d'ouvrir en Italie, ils mesurent, eux, à plus de 20 000 fermetures d'entreprises et à plus de 100 000 pertes d'emplois. Parce que ça n'a pas compensé. Alors, celui qui connaît un peu son sujet, qui en parle le mieux, c'est Michel-Édouard Leclerc. Il dit, moi, je n'ai aucune envie d'ouvrir mes centres Leclerc de dimanche, mais rien, parce que ça va me coûter de l'argent. Il a compris que ouvrir le dimanche les grandes surfaces ne faisait pas que vous comme moi, on va manger deux repas supplémentaires.
Ouais, c'est du gros plus aussi. On va dépenser des gros plus.
Mais que donc, ça étalait les ventes sur une journée de plus, sans chiffre d'affaires supplémentaire. Donc c'était des coûts supplémentaires. Et donc il le dit très bien. Ça ne sert à rien, sauf si mon concurrent ouvre. Donc je dois ouvrir pour pas qu'il prenne mes parts de marché. Mais comme mes coûts de toute façon augmentent, j'ai que deux façons de m'y retrouver. J'augmente les prix, merci pour le consommateur, et je tue la concurrence. Et la concurrence la plus facile à tuer, c'est le commerce de proximité. Lui, c'est un gars concret. Alors il y a un autre gars concret à qui je rends hommage, qui a eu le courage de reconnaître qu'il a fait une erreur, c'est le président de Bricorama. Bricorama n'avait pas le droit d'ouvrir le dimanche, ses concurrents aussi. Donc ça, c'était anormal que ceux qui faisaient la même chose aient le droit d'ouvrir le dimanche et pas Bricorama. Il a eu l'autorisation. Et il a regardé. Au bout d'un an, il a pris 6 premiers mois de l'année précédente où les Bricorama étaient fermés et les 6 premiers mois de l'année où ils sont ouverts. Et il a constaté qu'il n'avait pas plus de chiffre d'affaires et pas plus de clients. C'est-à-dire qu'il lui a fallu ouvrir pour s'apercevoir que celui qui passait à acheter une boîte le dimanche ne l'achetait plus en semaine. C'est pas aussi simple que ça. Sauf peut-être qu'un typique de collectionneur de brouettes, lui, il passe le vendredi de samedi pour en acheter, mais bon, ça reste un. Le dernier argument sur le dimanche, je vous le donne ces arguments parce que je peux aller sur l'économie. Pour moi, ce n'est pas les anciennes, mais ils existent quand même. C'est l'argument de M. Fabius que j'ai entendu sur RTL, dire oui, mais le dimanche, les Chinois partent à Londres. Alors j'ai regardé un peu ce qui se passait. Et je me suis aperçu que les Chinois, ils avaient beaucoup de qualités et beaucoup de défauts, mais ils ont sans doute un truc, c'est qu'ils ne sont pas idiots. Vous avez partent à Londres parce que les grands magasins sont fermés. Les Chinois qui viennent au voyage organisé à 90%, ils sont tellement stupides qu'ils n'ont pas compris que en France, c'était ouvert le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et de rage, ils partent à Londres parce que dans leur tour d'Europe, ils n'ont pas prévu d'aller à Londres. Si ils sont à Londres, peut-être le samedi, le vendredi, quand ils veulent, ou le dimanche, mais ils sont chez nous, ils ont le jour de la semaine. Et je n'ai jamais entendu les partisans de l'ouverture des grandes surfaces le dimanche, et notamment M. Fabius avec ses Chinois qui partent à Londres, me dire ils sont à Londres, ils partent à Londres de rage le dimanche et le mardi. Pourquoi le mardi? Parce que le mardi, nos musées nationaux, qui intéressent pas même les touristes, sont fermés. Le Louvre est fermé. Et on m'a jamais dit les touristes sont morts parce que c'est fermé. Donc il y a peut-être d'autres choses. Et que quand bien même des Chinois viendraient les acheter une paire de chaussettes, le dimanche, ils viennent aussi pour notre art de vivre, nos traditions, nos us et coutumes.
Les restos.
Ils peuvent aller dans une grande surface.
Les restos.
Ils peuvent très bien aller boire un coup. Au bistrot du coin, ce qu'on va peut-être faire dans quelques minutes. Mais sur le dimanche, je vais quand même par là parce que c'est un vrai choix de civilisation. C'est vraiment. Est-ce qu'on est dans une civilisation matérialiste où la société s'organise en interdisant tout le temps pour la transcendance et pour faire autre chose que produire et consommer? C'est pour ça que le combat beaucoup les prenait. Et je remarque, mon père, que l'épiscopat a été assez discret sur le sujet, peut-être parce que globalement il est occupé à autre chose le dimanche.
Je ne peux pas vous dire que tout va s'arrêter.
Pas encore. Pas encore.
Mais c'est vrai qu'ils ont été un peu discrets.
Oui, ouais, vachement. Ouais.
Et alors, de manière un peu polémique, mais vous nous dites que ce développement, cette inquiétude face à l'ultralibéralisme, forcément, va provoquer une dérégulation et donc toutes les difficultés. C'est cette armée de réserve du capitalisme qui est les femmes seules, je comprends, elles sont. Mais alors, comment on peut décemment nous expliquer qu'on peut être à la fois libéral sur le plan économique et libéral sur le plan des mœurs? Moi, j'ai un peu de mal à comprendre, et je me dis qu'au bout d'un moment, c'est une question un peu polémique, mais au bout d'un moment, quand on est libéral sur le plan des mœurs, eh bien, on s'offre au capitalisme dans sa partie la plus difficile, où on en paye le prix.
Alors, je suis un libéral, c'est-à-dire au sens de la doctrine sociale de l'Église pour la liberté, la liberté d'entreprendre, la liberté des entreprises, la liberté du commerce, mais avec des règles. C'est pour ça que je parle d'ultralibéralisme, mais je suis d'accord avec vous. La dérive est la même. C'est une dérive matérialiste. Et personnellement, mon engagement syndical, c'est pour lutter contre la marchandisation de l'humain. Et évidemment, je suis engagé dans la manif pour tous, parce que je n'accepte pas qu'on puisse nous dire que des femmes ou des hommes riches, parce qu'ils ont du pognon, peuvent louer le ventre d'une femme pauvre à l'autre bout de la planète pour acheter des enfants.
Alors, en ce sens, est-ce que les syndicats révolutionnaires n'ont pas trahi la classe ouvrière? En acceptant de se mettre avec ceux qui prenaient cette libéralisation à outrance, est-ce qu'ils n'ont pas de fait trahi les gens qu'ils devaient défendre?
C'est plus compliqué que ça.
Sont polémiques, hein,
c'est plus compliqué que ça. L'idéologie des syndicats révolutionnaires, l'idéologie marxiste,
elle est individualiste.
Mais derrière, il y a nos braves gens. Et donc l'action, par exemple, syndicale, l'action syndicale
individualiste et
de la CGT,
des uns et des autres,
elle peut être bien faite par des
ultralibéraux.
Mais l'idéologie, c'est effectivement, le marxisme a trahi la classe ouvrière, c'est clair, c'est net, c'est précis, on pouvait peut-être en discuter en 1919, voire en 1920, mais après, c'était clair. c'était net. Les premières victimes ont été la classe ouvrière. Mais la Révolution française, quand je vous parlais de la loi de Chapelier, première des choses qu'elle a faite, c'est interdire les rentes sociales. Quand même, ça a été même plus loin. Ce qui est enfin, rigolo vu aujourd'hui, c'est qu'ils ont tellement tout interdit qu'ils ont fermé les facs de médecine, par exemple. Parce que c'était la liberté. Et donc, il n'y avait plus besoin de former des médecins, puisque si je décidais d'être médecin, je pouvais m'y installer. Alors ça a tenu 2 ans. Hein. Parce qu'au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être un peu former en gens. Et cette idéologie, et on la retrouve dans l'idéologie, vous avez raison, enfin, moi c'est mon sentiment, l'idéologie ultra-libérale en matière économique marche de pair avec l'idéologie ultra-libérale en matière sociétale. D'où Google qui nous dit, vous emmerdez pas avec les grossesses et les gamins, allez, comme on n'est pas méchant, on vous paye les ovocytes gelés, et puis après... Vous voyez, d'ailleurs, je me pose la question si une salariée dont l'entreprise paye la congélation des ovocytes et ensuite la banque qui les conserve, qui tombe enceinte, est-ce que c'est une faute professionnelle? Je ne sais pas encore, il va falloir se poser sur la question. Vous voyez où ça va, mais les mêmes courants nous entraînent vers les mêmes erreurs.
Juste pour revenir de façon moins globale, concrètement, vos camarades... qu'il y a des, je suis persuadé, des braves gens, j'en ai croisé, des braves gens qui font bien leur boulot de syndicaliste, qu'ils soient à la CGT ou ailleurs, et pas que à la FFTC. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous êtes engagé à la Médic pour tous et à tout ça, puisque eux sont mis de l'autre côté?
Pas tous. Il y a ce que renvoient les ménés. Alors je m'en suis pris plein la tête, ouais, mais... un peu chez moi, mais ça, voilà, c'est un choix, je pleure pas. Hein. C'est un choix, il faut être cohérent. D'autres, la caisse nationale d'allocation familiale est obligatoirement consultée sur toutes les lois qui concernent la famille. Donc quand il y a eu le projet Taubira du mariage pour tous, la caisse d'allocation familiale a été consultée. Les administrateurs sont des spécialistes de la famille. Les administrateurs, il y a des côtés patronales, côté syndical, les personnalités qualifiées, etc. La majorité a voté contre. C'est pour ça que vous ne l'avez pas su. Si la majorité avait voté, si les experts de la famille avaient voté majoritairement pour, trompette médiatique. La majorité a dit non. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment s'est constituée sa majorité. Les administrateurs CFTC, tous, d'accord. Deux administrateurs CGT. J'ai discuté avec eux en disant, mais non, mais on n'est pas d'accord sur le fond. D'autres administrateurs CGT ont voté contre en disant, on ne va pas traiter du fond, mais on nous saisit en urgence. On nous demande ça, il n'y a pas urgence sur la question, mais c'est le temps de réfléchir, donc on n'aime pas la méthode. C'est histoire de ne pas se mouiller, mais ils ont voté contre. Les autres organisations syndicales ont voté pour. CFDT, les personnalités qualifiées, la majorité des personnalités qualifiées ont voté contre. Et il reste le patronat, qui a été très courageux. Nous ne participons pas au vote, parce que les problèmes de société ne nous concernent pas. Alors dans ces cas-là, il ne faut pas gérer la Caisse nationale de l'allocation familiale. Ça veut dire que dans cette même théorie, s'ils ne sont pas concernés par les problèmes de société, le jour où on rétablira l'esclavage, ça ne les concernera pas, c'est un problème de société, ils seront très ouverts juste pour négocier la longueur des chaînes. C'est absolument choquant. À un moment donné, ils sont concernés, ils sont par ça. C'est un corps. Ça s'appelle une grande chaîne. Donc à nous, on va y chercher.